Chapitre 13. Huitzing. La princesse Liechtenstein. Les corbeaux. Je me décide à aller en Russie. Le prince de Ligne me prête le couvent de Kaltenberg que je vais habiter. Vers du prince de Ligne. Portrait en vers du prince de Ligne par M. de Langeron. Sitôt que le printemps était venu, j'avais loué une petite maison dans un village des environs de Vienne où j'avais été m'établir. Ce village, nommé Huitzing, touchait presque le parc de Schönbrunn. La famille de Polignac l'habitait, et quoique sa situation le rendît agréable dès ce temps, j'ai su depuis par Madame de Rombeck qu'il s'est fort embelli et qu'elle-même y possédait une habitation ressemblante à la maison carrée de Nîmes. J'apportai à Huitzing le grand portrait que je faisais alors de la princesse Liechtenstein pour le terminer. Cette jeune princesse était très bien faite. Son joli visage avait une expression douce et céleste qui me donna l'idée de la représenter en iris. Elle était peinte en pied s'élançant dans les airs. Son écharpe, aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'entourait en voltigeant autour d'elle. On imagine bien que je la peignis les pieds nus. Mais lorsque ce tableau fut placé dans la galerie du prince, son mari, les chefs de la famille, furent très scandalisés de voir que l'on montra la princesse sans chaussures, et le prince me raconta qu'il avait fait placer dessous le portrait une jolie petite paire de souliers qui, disait-il aux grands-parents, venait de s'échapper et de tomber à terre. Les bords du Danube sont superbes et m'offraient tous les moyens de satisfaire mon goût pour les promenades solitaires et pittoresques. J'en découvris une un jour, où, de l'autre côté de la rive, en face de moi, s'élevait un superbe groupe d'arbres que les nuances de l'automne enrichissaient de tons riches et variés, et d'où j'apercevais à gauche, dans le lointain, la haute montagne du Kaltenberg. Charmé de ce magnifique paysage, je m'établis sur les bords du fleuve, je prends mes pastels et je me mets à peindre ces beaux arbres et ceux qui les environnent. Tout près d'eux était une cahute en planche et je voyais sur le Danube un petit bateau qu'un homme dirigeait fort doucement dans l'intention de tuer des corbeaux. Quelques minutes ensuite, effectivement, cet homme tire son coup de fusil, abat un de ses oiseaux qu'il prend et qui place sur la planche de son bateau. Mais dans l'instant même, une énorme nuée de corbeaux arrive à tire-d'aile. Leur nombre était tel que l'homme eut peur et courut se cacher dans sa petite baraque, en quoi je pense qu'il agit prudemment. Car je n'ai pas le moindre doute que les corbeaux, furieux du meurtre de leurs camarades, ne l'eussent assailli de manière à le tuer. L'homme enfui, ces pauvres bêtes s'approchèrent du corbeau blessé à mort, le prirent et l'emportèrent sur les branches d'un des plus grands arbres. Alors commencèrent des cris, des croassements si violents qu'on ne peut en donner une idée. Je restai 2 ou 3 heures à peindre les arbres où ils étaient perchés, et lorsque j'eus fini mon étude, leur fureur n'était point calmée. Cette scène, qui me surprit beaucoup, me jeta dans je ne sais quelle rêverie sur l'espèce humaine, qui, je dois l'avouer, était tout à l'avantage des corbeaux. J'étais heureuse à Vienne, autant qu'il est possible de l'être, loin des siens et de son pays. L'hiver, la ville m'offrait une des plus aimables et des plus brillantes sociétés de l'Europe, et quand le beau temps revenait, j'allais jouir avec délices du charme de ma petite retraite. Je ne pensais donc nullement à quitter l'Autriche avant qu'il fût possible de rentrer en France sans danger, lorsque l'ambassadeur de Russie et plusieurs de ses compatriotes me pressèrent vivement d'aller à Pétersbourg, où l'on m'assurait que l'impératrice me verrait arriver avec un extrême plaisir. Tout ce que le prince de Ligne m'avait dit de Catherine II m'inspirait un grand désir de voir cette souveraine. Je pensais, avec raison d'ailleurs, que le plus court séjour en Russie compléterait la fortune que je m'étais promis de faire avant de retourner à Paris. Je me décidai donc à faire ce voyage. Je m'occupais de mes préparatifs pour quitter Vienne et j'allais me mettre en route dans peu de jours quand le prince de Ligne vint me voir. Il me conseilla d'attendre à la fonte des neiges et, pour m'engager à rester encore, il m'offrit d'aller habiter sur la montagne de Kaltenberg, l'ancien couvent qui lui avait été donné par l'empereur Joseph II. Connaissant mon goût pour les lieux élevés, il me tenta, en me parlant de Kaltenberg, comme de la plus haute montagne des environs de Vienne, et je ne résistais pas à l'envie d'y passer quelque temps. J'allais donc prendre avec ma fille, sa gouvernante et M. de Rivière le chemin horrible et rocailleux qui conduit à ce couvent. Nous le fîmes à pied, les cahots de la carriole n'étant pas supportables, en sorte que nous arrivâmes très fatigués. Le gardien et sa femme, à qui le prince nous avait fortement recommandé, eurent pour nous les soins les plus empressés. Tous les bâtiments qu'avaient occupés anciennement les religieux existaient encore. On prépara aussitôt nos chambres, qui n'étaient autre chose que de petites cellules, distantes les unes des autres. Pendant ces arrangements, j'allais me reposer sur un banc, d'où l'on avait une vue magnifique. Je planais sur le Danube, coupé par des îles qu'embellissait la plus belle végétation, et sur des campagnes à perte de vue. Enfin, c'était l'immensité, et l'on peut remarquer que les religieux avaient le bon esprit d'habiter toujours des lieux fort élevés. Privés des jouissances du monde, au moins goûtaient-ils le charme qu'on éprouve à respirer un air pur en contemplant une nature grandiose. Je le goûtais moi-même alors, d'autant plus qu'il faisait un temps admirable. Je me reposai promptement de mes fatigues et je courus de l'autre côté de la montagne où, de la lisière d'un bois, j'apercevais dans le fond un village très peuplé que traversait une petite rivière courante et limpide. Enfin, j'étais ravi de me trouver là. Je préférais la cellule que j'allais habiter à tous les salons du monde et je bénissais ce bon prince de ligne en regrettant bien qu'il ne fût pas témoin de mon bonheur. Je suis resté 3 semaines dans ce beau lieu. Monsieur de Rivière, plus citadin que moi, allait souvent à la ville, mais nous n'en avons pas moins fait ensemble de charmantes promenades sur la montagne. Ma fille venait quelquefois s'asseoir avec moi sur le banc dont j'ai parlé, où nous attendions le clair de lune. Je me souviens qu'un soir, l'heure de son coucher approchant, elle me dit « Maman, tu trouves que cela fait rêver ? Pour moi, je trouve que cela donne envie de dormir. » Les grandes salles du couvent étaient restées intactes dans leur construction. Depuis, le prince les a fait meubler pour y donner de très belles fêtes. Les bals durant une partie de la nuit, les dames restaient toutes habillées et se couchaient sur les divans qui entouraient ces immenses salons. Pour mon goût, Kaltenberg, tel qu'il était quand je l'ai habité, me plaisait infiniment mieux qu'à l'époque où se donnaient toutes ces fêtes. Je retrouve ces vers que le prince de ligne m'adressa lorsque j'allais m'établir sur sa charmante montagne. À Madame Lebrun. Pour avoir fait à l'Empyrée le même vol que Prométhée, vous méritez punition. À ce mont, soyez attachés. Par un vautour, au lieu d'être ici déchiré, de vous, nous voulons bien avoir compassion. De caresses, soyez mangés, par notre amour, soyez cloués. Et par notre admiration, pour toujours, en ces lieux fixés. Près de votre habitation, de la voûte azurée dont vous semblez être échappé, oubliez votre nation par votre génie honoré, mais à présent, pays de désolation. Que ma montagne fortunée, par la fière possession des talents dont la terre est ravie, étonnée, soit par nos chants à jamais célébrée. Certes, on peut dire qu'une trop flatteuse exagération a dicté ses vers à l'aimable prince de ligne. Mais en voici fait sur lui-même, pour lesquels le poète n'a laissé parler que la vérité. Vers fait sur le prince de ligne par M. de Langeron en 1790. De Mars et d'Apollon tu vois le favori, et de Vénus le serviteur fidèle. Es-tu bon citoyen ? Ce sera ton ami. Es-tu soldat ? Ce sera ton modèle. Es-tu triste ? Ses soins calmeront ta douleur. Es-tu femme ? Bientôt, il sera ton vainqueur.